Salut les marques et salut les smarts. Salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui swingue, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Nous sommes rentrés dans l'après Undertaker era. Nous sommes au Raw post Survivor Series. Nous sommes donc au Monday Night Raw du 23 novembre 2020, le 1435e épisode de du vaisseau amiral de la WWE. Hein. N'hésitons pas à le dire. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et avec votre tonton Chris, rien de tel comme tag team partner qu'un autre ancien bien connu, j'accueille le papy. Salut papy.
Bonjour les enfants, bonjour tonton, oui, merci de m'accueillir dans ce Raw fantastique. Historico, magico, raw, voilà, c'est raw exceptionnel.
Ah ouais, c'est incroyable hein, d'attaquer un weekly en se disant, bah voilà, dorénavant, il n'y aura plus jamais l'Undertaker. Dorénavant, nous rentrons dans une autre ère. Voilà, là, j'appelle ça l'après Undertaker era. On verra si nos amis catcheuses et catcheurs en seront dignes. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah, je l'espère de tout mon cœur. J'espère vraiment qu'on verra des petits Undertaker naître à droite à gauche, des gens qui seront qui seront faire naître des générations de fans et voilà, et transmettre la flamme tout au long de longues décennies.
Alors juste comme ça, avant de commencer, tu vois un successeur probable au Taker dans le roster actuel, ou tu penses que ça va mettre pas mal de temps avant que ça puisse arriver?
Alors je pense que ça peut mettre du temps. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a quand on parle d'un successeur au Taker, je pense que beaucoup de gens imaginent facilement. Alors d'un point de vue, en fait, ils l'imaginent en plusieurs catcheurs, je pense. Ils vont imaginer le taulier du vestiaire qui peut être un Roman Reigns. Je pense qu'il peut très bien prendre la carrière de patron du vestiaire. Mais l'Undertaker, c'est aussi un personnage qui était hors du temps, hors des feuds, hors des storylines, enfin hors de tout, qui est son univers à lui. Donc on peut dire bah, Bray Wyatt dans ce cas-là. Et puis tu vois, en fait, et au final, je ne vois pas un Undertaker, je vois plein de petites parties de l'Undertaker dans les catchers, et je ne vois pas un seul mec qui est à la fois l'univers, qui est à la fois le in-ring, qui est à la fois la présence de l'Undertaker.
Et oui, mais pourquoi le pas, physique. Hein,
le physique, voilà, Bray Wyatt, je pense que malheureusement, moi j'aime beaucoup Bray Wyatt, mais je pense qu'il n'a pas le catch pour ça. Je commence à me douter du fait qu'il l'ait un jour, même s'il est encore très jeune. Voilà, il n'a pas la. Et puis il n'est pas si imposant que ça, même si c'est comme une belle bête. Et Roman Reigns, c'est ce qui. Là, il est en train de créer un personnage, mais ce sera toujours un personnage qui sera plus. Là, je vois plus dans la lignée des Stone Cold ou des Rock Roman que dans la lignée du Taker, tu vois. Donc, ouais. Je l'espère en tout cas, parce que je pense que ce serait une chance pour les futures générations d'avoir un équivalent de Undertaker. Mais en tout cas, à date, je ne le vois pas dans les rosters actuels.
Ouais, alors en tout cas, d'ici là, le temps de trouver son successeur. Voilà, pour l'instant, Roman Reigns, il est à SmackDown. L'Undertaker, il est à la retraite. Et nous, on est à Monday Night Raw. Et Monday Night Raw, il débute avec qui? Avec, j'ai presque envie de l'appeler le General Manager, mais la WWE, pour l'instant, l'appelle vraiment l'officiel. Et en l'occurrence, Adam Pearce, qui est sur le ring avec AJ Styles, Riddle, Kisly, Sheamus et Braun Strowman, qui sont donc l'équipe vainqueur de la veille des Survivor Series. Notre officiel va féliciter les 5 membres de la Team Raw, qui a établi quand même un clean sheet. On le rappelle, alors vous pouvez aller voir notre review des Survivor Series est en ligne, les amis, elle est disponible, donc allez écouter tout ça. Nous, on va continuer là-dessus. Voilà, grâce à la victoire finalement face à SmackDown, Adam Pearce annonce que l'un des membres de l'équipe va avoir une opportunité au WWE Championship qui est détenu par Drew McIntyre, et il attend donc de chacun qu'il fasse valoir ce qu'il faut pour pouvoir obtenir cette chance. Donc les gars vont choper le micro les uns après les autres. AJ Styles va vouloir commencer en tant que capitaine, mais il va être vite coupé par Sheamus. Ça commence à s'embrouiller dans tous les sens. L'Irlandais, visiblement, il est très très chaud, hein, parce qu'il va se prendre la tête avec Riddle, il va se prendre la tête avec AJ Styles. Il nous dit un petit mot pour Drew, hein, d'ailleurs, hein, il explique que Drew McIntyre, c'est son meilleur pote, et que donc il le félicite, pour un peu toute sa réussite, voilà, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Voilà, il explique qu'il a été essentiel à la victoire, de la Team Raw la veille en ouvrant le compteur, en éliminant Seth Rollins. Mais voilà, AJ Styles, lui, il n'est pas content. Donc voilà, ça se prend la tête. Kissy, il va prendre la parole aussi. Il va expliquer qu'il a sauvé AJ Styles pendant le match des Survivor Series. Donc que c'est lui qui mérite l'opportunité. Derrière, c'est Riddle qui prend le micro. Lui aussi, lui, il va dire, bah voilà, moi, j'ai éliminé King Corbin. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas récupérer un titre aussi. Donc ils sont tous chauds, finalement, pour avoir un title shot. Tout le monde va se moquer plus ou moins. Ils vont se moquer aussi un peu de Riddle, un peu. Mais voilà, Adam Pearce, il va arriver, il va calmer un peu tout le monde, et puis il va se tourner vers Braun Strowman. Et Braun Strowman, alors là, réaction assez incroyable, puisque lui, eh ben lui, ça lui plaît pas du tout toute cette affaire. Il va choper Adam Pearce par le callback, il va lui hurler dessus sans trop qu'on comprenne exactement ce qu'il veut, mais on comprend juste qu'il lui demande s'il sait qui il est, quoi. Et voilà, donc les quatre autres qui sont là, ils vont essayer un peu de protéger Pearce, mais ça va pas suffire. Parce que Braun Strowman, il va mettre un méga coup de boule à Adam Pearce et ça va s'arrêter là-dessus, quoi. Donc, voilà, l'opener de Raw commence sur une espèce d'embrouillamini entre les cinq qui sont définitivement plus une équipe, on vous l'annonce, et Braun Strowman se retrouve un peu dans l'œil du cyclone, papy, non ?
Oui, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y est toujours plus ou moins, l'ami Braun. Parce que là, bon, c'est un opener. C'était très bien de commencer avec l'équipe de Raw, Lapsus, qui a remporté les Survivor Series parce que effectivement, ils sont impressionnants, 5-0. Quitte à avoir un contender pour Raw, bah, c'est très bien d'aller chercher là-dedans parce que eux, voilà, ils ont montré qu'ils avaient les couronnes pour l'affronter, quoi. Donc et Braun, j'ai le sentiment, alors c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste un délital gueule pour lui, mais j'ai souvent le sentiment dès que c'est un peu trop compliqué pour le gérer, Braun Strowman, on lui trouve une pirouette pour le sortir de l'histoire. Tiens, t'es trop violent, donc et hop, clac, tu vas péter un câble et tu vas faire une grosse connerie. C'est vrai que ça vient un peu de nulle part parce que la veille il était copain comme cochon avec les participants, ils faisaient la fête ensemble sur la victoire, et puis là il redevient Braun le gros débile qui pète la gueule à un officiel. J'ai trouvé la ficelle un peu grosse, quoi.
Ouais, mais t'as remarqué que c'est pas la première fois que ça arrive avec Braun, hein. C'est souvent souvent qu'il se fait sortir comme ça tout d'un coup pour telle ou telle raison. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps.
T'as l'impression que quand ils savent pas quoi en foutre, et ben hop, ils font un câble et puis vas-y, attaque un officiel, ça solutionnera ton comment. En fait, parce que je pense qu'ils savent pas le gérer. Ils savent pas quoi en foutre. Il est trop fort pour jobber, mais en même temps, il est pas assez fort pour être quelqu'un sur qui on mise. Donc, il a peut-être un syndrome Big Show, c'est-à-dire que ils le mettent à droite, à gauche, et puis selon les besoins, il sera face ou heel, et puis voilà, quoi. Et souvent, il sera rendu pour des histoires.
C'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, si tu te rappelles bien, à WrestleMania cette année, il n'avait pas de programme à la base. Il était sur la touche, justement, un peu à ce moment-là, et il a été rappelé Manu Militari suite à la défection de Roman Reigns cause Covid. Et du coup, finalement, il se retrouve un petit peu dans une situation un peu similaire, quoi. Donc, mais on va voir pour la suite du show ce qui va se passer. On vous dit pas tout. Alors, derrière, on va avoir une petite vignette qui aura été enregistrée plus tôt entre le Hurt Business et les New Day, et avec un Shelton Benjamin et un Cédric Alexander qui sont particulièrement menaçants et qui sont pas très contents finalement de la défaite des New Day la veille. Ils considèrent que ça a fait baisser le prestige du titre tag team d'Euro. Eux, ils ont pas tellement aimé avoir été mis sur le banc de touche. Alors qu'ils auraient préféré, alors que ceux qui ont participé, ils les vannent un peu sur le déguisement, le cosplay qu'avaient les New Day au Survivor Series. Donc ils leur disent, mais nous, on est des vrais bonhommes, donc nous, on vous défie. Et Woods et Kofi Kingston vont accepter le challenge et on va s'en aller direct vers un WWE Raw Tag Team Championship entre les New Day et le Hurt Business, représenté par Benjamin et Cédric Alexander. Alors là, on va avoir un match qui va être un peu en deux temps. Puisqu'il va y avoir une première partie, finalement, ils vont se retrouver en dehors du ring et il va y avoir un double count-out. Et du coup, sous la provocation finalement de MVP, quoi. Et l'arrivée d'Adam Pearce, je ne me trompe pas, oui, c'est ça, l'arrivée d'Adam Pearce qui va relancer le match. Et du coup, on va avoir un match complet et tellement complet que, mine de rien, on va avoir un match de quasiment 22 minutes en tout et pour tout. Donc vraiment, ils sont pas foutus de nous sur le coup pour ce match tag team, quoi. Et on va avoir un gros match, quoi, entre les New Day et le Hurt Business. Finalement, après moult péripéties, Xavier Woods va parvenir à renverser un Sunset Flip Powerbomb et il va contrer ça en un roll-up. Voilà, le bon fameux roll-up. Et il va remporter la victoire pour les New Day. Donc les New Day se remettent bien de leur défaite du Survivor Series de la veille et enchaînent avec une victoire probante, on va dire, mon papy, contre le Hurt Business.
Ah oui, probante. Et surtout, ils viennent d'enchaîner trois gros matchs en une semaine, là, parce que je crois que dans l'Euro, avant le Survivor Series, ils avaient aussi fait un gros match contre le Hurt Business déjà. Là, ensuite, contre les Street Profits au Survivor Series. Et re contre le Hurt Business le lundi d'après. Donc, trois gros matchs en 8 jours. 22 minutes, c'est une sacrée perf. Hein. C'est bien. On en parlait dans la review du Survivor Series. Je vais y arriver. Ils sont en train de ressusciter la division tag team, les New Day. Là. Ils ont du temps à l'antenne et ils font des gros matchs, des bons matchs en plus. Ça fait plaisir. Et peut-être, si ça continue comme ça, moi, je serais le premier ravi d'avoir une rivalité qui se tienne sur plusieurs semaines avec la division tag team et surtout du catch. Je suis très content de ça.
Du coup, un gros match tag team comme ça de 22 minutes, je pense que ça faisait un sacré bail qu'on n'en avait pas eu en weekly. Donc, pour le coup, c'était appréciable. Et effectivement, je te rejoins, je pense que ça relève un peu le niveau de la tag team et ça fait du bien quand même. Derrière, on va retrouver en coulisses Adam Pearce hein, qui a donc un gros bobo sur son crâne luisant. Et avec la belle Charlie Caruso qui est là, qui l'attend, il va déclarer à Charlie Caruso qu'il a fait escorter Braun Strowman hors du Thunderdome, qu'il le suspend, quoi, et que du coup il est écarté de la course au titre. Et à ce moment-là, on va avoir Bobby Lashley, le champion US, qui va venir faire une proposition à Pierce, comme il était le seul champion vainqueur d'Euro la veille. Mais on n'en saura pas beaucoup plus parce que après la discussion, il y a Randy Orton aussi qui va venir débarquer pour faire une petite proposition à Adam Pearce. Mais tout ça va être sans le son et on va juste deviner plus ou moins qu'il se trame quelque chose avec Adam Pearce, Bobby Lashley et Randy Orton. Du coup, cette éviction de Braun Strowman va nous amener vers des single match pour déterminer. Alors que je dis pas ce bêtise, déterminer un triple threat pour la semaine prochaine, hein. On est d'accord, papy ?
C'est bien ça.
Voilà, et donc Riddle va affronter Sheamus, Kisley va affronter Bobby Lashley. Voilà, c'était certainement le plan de Bobby Lashley de toute manière. Et AJ Styles affrontera lui de son côté Randy Orton. Voilà, ces trois-là, ceux qui se qualifieront dans ces trois matchs se retrouveront la semaine prochaine pour déterminer le number one contender au bel homme. On va continuer un petit peu dans les coulisses, puisqu'on va y retrouver... qui est-ce qu'on va retrouver ? Ça va être l'annonce, en fait, c'est ce que je viens de dire. Ça va être le segment qui suivra. En fait, ce sera Charlie Caruso et Adam Pearce qui vont annoncer la tenue d'un tournoi. Voilà, les trois matchs qui vont avoir ce soir. Et voilà. Et le vainqueur donc du match affrontera, du coup, Drew McIntyre lors de TLC. Donc là, voilà. On est bon. Et du coup, on va attaquer avec le premier match de qualification qui va voir s'affronter Riddle et Sheamus. Alors là, encore une fois, je suis encore surpris puisqu'on va avoir un match de 21 minutes. Alors, que se passe-t-il à Raw ? Que se passe-t-il, peuple de catch-up ? Expliquez-nous dans les commentaires, que se passe-t-il ? Voilà, on aura eu un gros match. Le vétéran, moi j'ai que du respect pour lui parce qu'il va mettre over le Riddle à mort, qu'on a je pense pas mal besoin parce qu'il est quand même un petit peu en dessous des autres à mon goût en tout cas, et on va avoir un gros combat où les deux vont pouvoir lâcher un peu tout. Il me semble que Riddle a changé quelque chose, quelques petits trucs dans son moveset, fait quelques trucs un peu différents. Sheamus lui, il est dans sa routine habituelle, toujours aussi destructeur. Ça cogne dans tous les sens, ça va cogner vraiment très très fort, mais ça va aller jusqu'au point où Riddle va renverser le clover leaf de Sheamus. Et qu'est-ce qu'il va faire, les amis ? Eh ben, il va faire un roll-up. Et voilà. Et victoire de Riddle face à Sheamus sur un roll-up. Riddle qualifié pour le triple threat de la semaine prochaine, mon papy.
Et oui, qualification de Riddle. Pour arriver directement à la fin, le roll-up, moi, ça me dérange pas sur ce coup-là parce que bon, c'est typique du roll-up pour protéger le mec qui a perdu, quoi. Sheamus, il est vraiment en grande forme en ce moment. Donc, on va pas le faire tout de suite prendre le pin par Riddle. Ce sera, le jour où il prendra un pin, ce sera plus un pin décisif, je pense. que ce pin-là. Et donc, ouais, donc, bah, pour revenir à la petite séquence, effectivement, donc, on a entre 3 matchs qualificatifs pour un triple threat pour désigner le number one contender. C'est plutôt un bon choix parce qu'effectivement, donc, on a l'équipe d'Euro, comme je disais, qui comporte des gens qui ont gagné ce week-end, plus la Chic qui a aussi gagné ce week-end. Et Orton, bon, qui est un peu c'est la méga star de toute façon du roster, Orton. C'est le plus ancien, le plus titré, tout ça. Donc, et l'ancien champion, donc c'est pas totalement logique de le voir là non plus. Et donc, effectivement, Riddle qui et Sheamus qui font un gros match bien long. Alors, comme tu le dis, c'est étonnant de voir deux matchs aussi longs s'enchaîner. Je pense aussi que c'est la preuve de la confiance qu'ont la WWE dans les New Day et dans Sheamus, qui sont des vraies références, des vrais tauliers du roster. Et donc, bah, tant mieux pour Riddle qui peut continuer à prendre son job avec un spécialiste. Effectivement, je trouve aussi qu'il est mieux depuis quelques semaines. Est-ce que c'est parce qu'il a simplifié son moveset? J'ai l'impression de le voir moins faire dans tous les sens, Riddle, et d'être plus, entre guillemets, régulier, et de faire de simple mais bien. Donc, à suivre pour la suite pour lui. Puis du coup, bah, il se retrouve qualifié pour le triple threat. Et, bon, c'est pas volé non plus. Donc, voilà, c'est bon match, bonne qualification et bonne histoire à compter pour ces futures rivalités pour le titre suprême.
Alors, on va retourner en backstage où on va retrouver Lana, la star des Survivor Series de dimanche, qui va croiser Asuka. Et alors, Asuka, elle a toujours des problèmes en anglais, hein, parce que elle a cru comprendre que Lana lui avait lancé un challenge, ce qui n'était pas le cas. Et elle l'accepte pour ce soir. Donc Lana, elle est un peu sur le coup stoïque. Et puis finalement, elle a quand même un grand sourire qui s'affiche parce qu'elle vient de réaliser qu'elle a gagné les Survivor Series et qu'en plus, le Raw du lendemain, elle a le droit à un title shot face à Asuka. Je crois que c'est que du bonheur pour Lana. Non, on va en reparler après. On va passer directement à la Firefly Funhouse avec Alexa Bliss et Bray Wyatt. Alors, le sujet du jour à la Firefly Funhouse, c'était le friendship, c'était l'amitié. Donc, Bliss et Wyatt vont nous expliquer pour nous dire que, en fait, l'amitié, bah, c'est pas une bonne chose. Parce que ça se finit toujours par une trahison. Alors, il y a un vieil adage qui dit que l'amour, ça finit mal en général. Mais peut-être que l'amitié aussi, parfois, et surtout à la Firefly Funhouse. Voilà, donc ça se finit par une tradition et parfois on vient brûler la maison. Donc du coup, on voit en image derrière la maison de Sister Abigail qui brûle. Et Wyatt va nous expliquer que bah, ce soir, Alexa Bliss va affronter Nikki Cross. Et voilà, elle se cherche depuis quelques semaines. Enfin, en l'occurrence, Nikki Cross qui surtout cherche à faire revenir dans le droit chemin Alexa Bliss. Mais pour l'instant, ça ne marche pas très très fort. Mais ils vont être interrompus par une nouvelle marionnette, une grenouille. Donc pour nous, les petits froggies, les petits français, c'était plutôt sympa. Et qui ne jure effectivement que par l'amitié. Et du coup, bah, Alexa Bliss, elle sent qu'il y a quelque chose qui monte en elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choper une espèce de marteau, je sais même plus quoi. C'est quoi qu'elle a attrapé d'ailleurs pour,
une espèce de symbole. Enfin, c'est un espèce de marteau, mais c'est un espèce de symbole aussi de la Firefly Funhouse. C'est plusieurs fois que j'ai l'impression qu'ils le sortent, cet outil-là.
Ouais, je crois aussi, ouais. Donc, en fait, avec cette espèce de marteau, elle va démonter la grenouille et elle va la tuer sous le regard triste de Bray Wyatt, qui va demander une minute de silence. Et en fait, ils vont finir par éclater de rire et ils vont prendre rendez-vous avec Nikki Cross plus tard dans la soirée. Alors, ce Firefly Funhouse, mon papy, pour toi, ça reste toujours une bonne respiration dans ces Monday Night Raw ?
Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment la respiration. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas m'imaginer que c'est des conséquences sur la suite. Maintenant, je le prends vraiment comme un truc à part où toutes les pistes qu'il lance, de toute façon, il y en aura comme 9 sur 10 qui ne vont jamais percer. Et donc là, bon, c'était un petit second comique avec la grenouille, effectivement, où pendant la minute de silence, ils font une espèce de récap de la vie de la grenouille, on le voit tétard, et puis après, c'est les images qu'on avait vues d'elle dans les anciens épisodes, mais bon, vu qu'on l'avait jamais vu dans un ancien épisode, c'est que des images de cet épisode-là qu'on voit. Puis voilà, RIP, je crois qu'elle avait 40 ans, la grenouille, je crois qu'elle était née en 1980 et décédée en 2001.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, elle a quand même vécu, même si on venait de la découvrir, et puis bah, c'est une perte un peu pour la Firefly Funhouse. Voilà.
Ouais, bah écoute, moi je reste un très bon client de la Firefly Funhouse, moi j'ai trouvé ça excellent encore, moi ça m'a bien fait marrer, je trouve qu'Alexa Bliss elle est trop bien là-dedans, moi je trouve que le couple marche super bien. Vraiment, moi Alexa Bliss de toute façon, franchement, je suis fan quasiment depuis le début. Quand elle était à NXT, bizarrement, je me disais qu'elle réussirait jamais cette fille. Et à partir du moment où elle est montée dans le main roster, vraiment, elle a explosé. Elle est capable de tout. Elle sait tout faire. Elle est bonne en promo. elle change son personnage au fur et à mesure, elle s'adapte. Enfin, vraiment, moi, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une super idée des bookers, là, cette association. Et je trouve la bonne nouvelle, en plus, dans ce Firefly Funhouse, c'est que Alexa Bliss, maintenant, elle va être impliquée en termes de catch, en plus. Donc, oui. Ils deviennent dangereux. C'est un couple qui devient dangereux dorénavant. On n'est plus seulement que dans le Fiend. Et moi, je vais te dire un petit truc, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais moi, tu sais quoi ? Eh ben, moi, j'aimerais qu'Alexa Bliss, on lui attribue un espèce de cosplay de démon féminin, tu vois, un espèce de pendant du Fiend. Ça me plairait bien, moi, un espèce de truc un peu lugubre là, tu vois, avec elle. J'essaye d'envisager quelque chose avec elle, mais moi ça me plaît bien tout ça.
Ouais, qu'elle soit plus juste possédée, mais qu'elle puisse aussi aller chercher son alter ego démoniaque, et peut-être après une défaite, on verra si c'est pas quelque chose qui ont creusé. Effectivement, en tout cas, elle s'éclate dans l'univers. Les deux, ils ont l'air de beaucoup s'amuser entre eux. Et ben voilà, on aurait pu avoir peur qu'Alexa Bliss soit juste un valet de Bray Wyatt, mais non, elle va bien catcher. Ce serait peut-être même lui son valet, on ne sait pas, hein, parce que vu qu'ils ont toujours du mal à trouver des rivalités qui lui conviennent, on ne sait jamais ce qui se passera, mais en tout cas, les deux ont du programme, et ben, c'est très bien. En plus, ils ont l'air de s'amuser, donc amusez-vous.
Ah, bah ça, je suis complètement d'accord. On sent qu'il s'éclate, quoi. On le sent, on sent qu'il n'y a pas de demi-mesure. On sent que là, tous les deux se passent la balle, j'ai envie de dire, dans les promos, etc. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, moi, je suis super client de ce duo. Donc, j'espère que ça va continuer et que ça va nous emmener vers des trucs vraiment de plus en plus sympas, quoi. Allez, on revient un peu au catch. Et on revient, puisqu'on a, mine de rien, on a un Raw Women's Championship. Hein. Et ouais, hein. Lana a donc un title shot face à Asuka. Donc évidemment, j'imagine qu'il y en a beaucoup dans les chaumières qui ont dû hurler de voir un truc pareil. Mais ils vont être, j'ai envie de dire, très vite rassurés, puisque le match entre Asuka et Lana va ne durer qu'une petite minute 05, puisque Asuka va se retrouver ringside au bord de la table des commentateurs avec nos amis Byron Saxton, Samoa Joe et Tom Phillips. Et qui est à la table des commentateurs, bah c'est ni plus ni moins que Shayna Baszler et Nia Jax qui sont venus assister un peu à la boucherie. Et au moment où Asuka se retrouve au bord de la table des commentateurs, elles vont interpeller Asuka et elles vont lui dire « Quoi ? Mais Lana, non mais t'es sérieuse quoi ? Tu rigoles quoi ? Tu donnes un title shot à Lana ?» Et donc évidemment, ça part en couille, no contest. On va finalement décréter, c'est un truc assez classique, tag team match, et on va faire un match Asuka Lana versus Nia Jax Shayna Baszler. Alors là, on se dit que, oulala, comment ça va se passer ? Et ben ça va se passer en 7 minutes, les amis, 7 minutes ce petit match de tag team féminin. Mais Asuka et Lana vont battre les championnes par équipe. Donc quand même première surprise déjà, surtout que Lana n'est pas passée à travers la table des commentateurs, et en plus elle a réussi à empêcher Nia Jax de la faire passer à travers la table, donc félicitations Lana. Shayna Baszler, elle va tenter de la surprendre avec une Kirifuda Clutch, mais ça va pas marcher parce qu'elle va être elle-même surprise par l'intervention d'Azuka, et mon bon papy, je te le donne en mille, comment ça se finit ? Avec un roll-up ! Voilà, un bon schoolboy de la part d'Asuka pour gagner le match, et Asuka et Lana gagnent donc ce match, et j'ai presque envie de dire, elle se positionne en number one contender pour le titre féminin par équipe, là, papy.
Bah oui, c'est vrai que maintenant que tu me le racontes comme ça, ça enchaîne un peu les roll-up sur ces...
Ah ouais, on en est au troisième roll-up consécutif, là. Trois matchs, trois roll-up.
Ça pique un peu. Par contre, là, du coup... Alors c'est marrant parce qu'en fait c'était une idée que j'avais eue avant les Survivor Series de me dire est-ce que Lana et Asuka vont pas être associées, et après pourquoi pas avoir du coup les quatre qui Lana, Asuka et Baszler et Nia Jax qui vont tourner autour du titre d'Asuka en Fatal 4-Way, tu vois, par exemple. Et parce qu'en fait, finalement, pour trouver une adversaire à Asuka, c'est un peu compliqué, quoi, parce que les deux plus fortes, c'est Baszler et Nia Jax, ils sont déjà en équipe. Donc, ça aurait été un peu compliqué de les retrouver. Du coup, je me disais, vu que Lana, elle tourne un peu autour de cette histoire-là, qu'elle est face, mais en même temps, elle a un peu une histoire d'underdog qu'on aurait bien voulu réussir, peut-être qu'elle aura un jour sa chance au titre suprême, et ce sera l'occasion peut-être de réutiliser Baszler et Nia Jax. Et je me demande si ça va pas tourner petit à petit vers ça. C'est-à-dire d'abord faire une étape où ils vont se battre en tag team, avec prise de titre ou pas. J'en sais vraiment rien. Pourquoi pas une prise de titre Asuka Lana, hein. C'est pas, c'est, moi, je ne rends pas cette situation impossible. Et après, que ça déboucherait sur plus tard un four-way entre les filles là, pour permettre justement à Asuka d'avoir un peu de concurrence, quoi, le temps que Charlotte revienne. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça qui peut, entre guillemets, sauver un peu la rivalité féminine, quoi. Donc voilà.
Le problème, c'est que ça montre bien que Asuka a pas de concurrence et que du coup, les bookers sont obligés de la coller dans la picture de la tag team parce qu'ils savent pas qui lui mettre en face. Elle a démoli à peu près toute la concurrence depuis qu'elle a le titre suite à Money in the Bank. Et elle paraît quasiment imbattable à l'heure actuelle. Donc de toute façon, voilà, je pense qu'ils veulent ils veulent patienter pour l'instant. Et je pense que vraiment chez les filles, ça va repartir pour la Road to the Rumble. Voilà, je pense qu'il va y avoir soit des montées d'NXT, soit le retour de Charlotte comme l'attend avec impatience ringside. Donc je pense qu'on est parti sur un truc comme ça pour l'instant.
Oui, alors, attendons de voir.
Voilà. Alors, mon papy, derrière, il y aura un minuscule segment coulisses avec Riddle qui va croiser MVP et qui va lui, qui essaye en fait un peu de s'incruster plus ou moins dans le hard business, quoi, parce qu'en fait, il lui propose plein d'idées dans lesquelles investir. Et que, alors, c'est assez étrange parce que le hard business est aligné comme des heels et Riddle comme face. Donc, c'est assez bizarre qu'il vienne proposer ses services à MVP. Mais bon, MVP, lui, va être assez cash puisqu'il va lui dire qu'il n'a pas le temps, quoi, mais que bon, il y pensera à l'occasion. Parce qu'effectivement, il a un de ses poulains qui est en action tout de suite derrière, en l'occurrence Bobby Lashley, toujours pour les matchs qualificatifs pour le Triple Threat de la semaine prochaine. Et en l'occurrence, on va avoir un match de Golgoth. Alors là, peuple de catch-up, éteignez vos clopes, attachez vos ceintures, parce que là, ça va envoyer du lourd pendant 12 minutes. Et là, un vrai gros match de poids lourd où ça va se cogner. Moi, je trouve que Lashley est dans sa meilleure période à la WWE depuis son retour. Je ne l'ai jamais trouvé aussi bon, même dans les cordes et tout. Vraiment, c'est vraiment. Et là, il avait une telle opposition avec le behemoth qu'est Kisly. Et on notera aussi que Kisly, ils ont à nouveau changé son theme song d'entrée. Et voilà. Et derrière, on va avoir un énorme match, quoi. Ça va être vraiment, ça va envoyer du lourd. Mais grosse connerie quand même, je pense, quoi. Grosse connerie d'MVP. Alors là, pour le coup, on peut pas dire que ça a été un manager avec une grande idée, puisque il va rien trouver de moins que intervenir dans le match en attaquant Kisly. Et du coup, il va causer la disqualification de Bobby Lashley. Et derrière, en plus, il va prendre cher, puisque Kisly va le choper et va le terrasser, quoi, avant de célébrer sa victoire tranquillou, quoi. Alors, mon papy, là, on a Kisly qui est qualifié pour le Triple Threat. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu crois pas que ça dévalorise un peu le champion US, cette défaite?
Alors je suis pas sûr, parce que là du coup c'est disqualification. C'est pas vraiment une défaite, parce qu'il était pas sur le point de perdre en plus, hein. On se comprend pas pourquoi MVP craque d'un coup et attaque Kisly, parce que il prise même pas à tomber, hein, de mémoire. Il intervient juste comme ça, il pète sa gueule, on ne sait pas pourquoi. Je me demande si. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a enfin trouvé le premier gars qui résiste à Bobby Lashley. Quoi. Moi, je le vois plus comme ça, en disant Bobby Lashley était invincible à tuer tout le monde jusque-là. Et là, y a un gars qui lui résiste et qui lui remet des pains dans la gueule et de manière assez violente. Donc, moi, j'ai trouvé plutôt l'inverse. Le premier gars qui résiste à Bobby Lashley. Et du coup, je me demande même si c'est pas du coup quelque chose qui l'élimine, Kisly pour le triple threat à venir, parce que je vois vraiment Kisly aller chercher Bobby Lashley en fait. On avait personne qui pouvait ne serait-ce que faire trembler un peu Bobby Lashley depuis qu'il avait pris le titre US. Et là, on a trouvé le premier gars. Et je serais pas étonné que ce premier gars, il commence à se dire est-ce que je pourrais pas prendre la ceinture aussi?
Ouais, c'est pas possible. De toute façon, je pense qu'effectivement, dans ce triple threat qu'il y aura la semaine prochaine, effectivement, les deux qui perdront, peut-être effectivement, se relanceront vers le titre US.
Ouais,
ça te paraît envisageable? Moi, je vois bien, par exemple, Riddle, tu vois, Riddle dans la title picture du titre US, ça me paraît pas déconnant, quoi.
Oui, alors en fait, on le verra surtout pour. C'est avant ou après qu'il croise MVP, Riddle?
C'est avant.
C'est avant. Donc effectivement. Donc oui, ça pourrait faire penser à ça. Après, c'est. Tu vois, Riddle, moi, enfin, c'est con. Alors, c'est aussi parce qu'ils sont affrontés les uns les autres à ce match-là. Mais Riddle, du coup, c'est comme plusieurs semaines qu'il y a des bisbilles aussi avec Sheamus. Donc, est-ce qu'il va pas poursuivre avec Sheamus, surtout qu'il n'a pas eu de victoire encore vraiment éclatante avec lui? Je sais pas dire. Je sais pas dire. Moi, je veux vraiment Keith Lee aller dedans. Hein. Et peut-être Riddle qui vient en tant que copain, qui vient un peu l'aider à bord ring. Mais moi, je vois Keith Lee gros comme une maison.
Ok. Eh ben écoute, derrière, on aura un petit segment backstage avec Nikki Cross juste avant son match face à Alexa Bliss. Voilà quoi. L'Écossaise, elle n'est pas contente parce qu'elle dit qu'Alexa Bliss, elle est en train de détruire une amitié quoi, pour aller voilà, pour se réfugier auprès du Fiend. Elle en a marre et elle veut pas affronter Alexa Bliss. En fait, elle veut affronter le démon qui habite Alexa Bliss. C'est toute la subtilité,
la nuance
et toute la nuance de Nikki Cross. Et voilà quoi. Donc, elle est assez étrange parce qu'après, elle dit qu'à la fin de son truc, elle nous dit qu'elle n'est pas tout à fait contre l'idée de voir Alexa avec le Fiend, mais ce qu'elle veut pas, c'est elle veut pas la voir se faire posséder ainsi quoi. Donc, bon, c'est un petit peu contradictoire tout ça, mais bon, on n'est plus assez après. Et du coup, derrière, on va avoir l'enchaînement avec le match avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors, Alexa Bliss, elle va arriver dans une nouvelle tenue, j'ai envie de dire, puisqu'elle est dans une tenue très enfantine, toujours dans le mood de la Firefly Funhouse, avec une petite jupette, etc., avec un boxer dessous, avec ses gants, avec un petit... sur chaque gant, sur un gant, il y a marqué Play, et sur l'autre gant, il y a marqué Dane, en référence au mari de Nikki Cross, qui n'est autre que Killian Dane, l'Irlandais du Nord qui évolue à NXT, qui est actuellement en tag team avec Drake Maverick. Donc voilà, petit rappel, et là on va avoir un match. On a eu un match de 4 minutes, voilà, très court, peut-être trop court à mon goût en tout cas, mais parce que j'ai trouvé que c'était d'une très bonne qualité. Et sur la fin du match, Alexa va faire croire à Nikki en fait qu'elle est désolée, que voilà, qu'en fait voilà, on a l'impression qu'elle est en train de retourner sa veste envers Nikki, qu'elle est en train de retrouver le chemin de l'amitié. Et donc, du coup, Nikki Cross, bah, elle marche à fond dans le truc. Elle va vouloir prendre Alexa Bliss dans ses bras. Et là, ce n'était pas ce qu'il fallait faire parce qu'Alexa Bliss, bah, elle va faire un petit peu semblant de faire un hug. Mais le hug va se terminer dans un Sister Abigail. Et Nikki Cross termine KO, les bras en croix, au milieu du ring. Victoire d'Alexa. Finalement trop court. Alors, papy, je t'ai récupéré, papy.
Oui, eh ben justement, je désolé, je ne t'entendais plus. J'ai entendu
Alexa. Non, on a eu un petit trou d'air de connexion, je crois là. Mais voilà, donc écoute, j'avais fini en fait. Je parlais d'Alexa Bliss et Nikki Cross et la fin, voilà, la fin avec ce Sister Abigail suite à ce faux câlin que fait Alexa Bliss à Nikki Cross. Et Nikki Cross, elle a marché dans la combine et voilà, elle se retrouve les bras en croix au milieu du ring. Victoire d'Alexa Bliss, première victoire d'Alexa Bliss depuis qu'elle est en duo avec Bray Wyatt.
Oui, première victoire. Alors, comme tu faisais la réflexion de dire c'est un match bizarre, court et en même temps où ils ont passé quand même une grosse partie du match à ne pas se battre, moi je pense que c'est un faux match. C'est juste un argument scénaristique pour bah, montrer qu'Alexa Bliss est prête à tout maintenant qu'elle est possédée par le démon. Et puis voilà quoi, je pense qu'il y aura j'espère en tout cas que plus tard il y aura un vrai match, une vraie opposition entre les deux, peut-être d'ailleurs à TLC, hein, c'est typiquement le c'est type possible, de rivalité qui peut avoir un match à stipulation. Donc voilà, j'attends de voir la suite, mais je m'inquiète pas par rapport à la durée de ce match là, parce que je pense que c'était vraiment juste pour faire une petite transition scénaristique autour d'un match.
Ouais, moi non plus, je suis pas inquiet par rapport à la longueur du match. Moi, j'en aurais juste repris 2-3 minutes parce que j'étais convaincu qu'elle pouvait nous sortir un super truc. Mais finalement, je trouve que c'était bien réfléchi. La fin était bien. On pouvait presque marcher dans le fait d'Alexa Bliss qui commençait à dire « Ah non, mais non, mais en fait, je t'aime, Nikki. » Mais donc, c'était plutôt pas mal foutu. Et ça a continué de me convaincre sur ce qui se passe avec Alexa Bliss et Bray Wyatt. Donc c'est parfait, quoi. Et ben voilà, et ben mine de rien, on arrive à notre main event. Et donc, le main event, c'est le troisième match pour la qualif du Triple Threat de la semaine prochaine. Et ça va augmenter. Alors là, pour le coup, là, gros line-up, puisqu'on a, mine de rien, AJ Styles face à Randy Orton pour un match qui va durer 13 minutes, quasiment. Alors, j'ai essayé de chercher, peut-être, Papy, tu vas pouvoir me répondre, mais je ne me rappelais pas que AJ Styles et Randy Orton se soient déjà affrontés.
Bah, Mania, il y a eu un Randy Orton et AJ Styles à Mania.
Ah, mais oui, t'as raison, ah, mais j'avais oublié ce match-là, mais carrément, t'as raison, ça y est. Ah bah, ça y est, là, tout me revient, là. Ah bah, ouais, effectivement, ouais. Effectivement, il s'était déjà affronté à Mania. Bah, tu vois, ma mémoire, Alzheimer me joue des tours. Voilà, quoi. Donc, du coup, on va avoir un match qui va se dérouler totalement sans encombre, où les deux vont dérouler un peu leur moveset sans problème. Ça va être assez intense. Mais voilà, AJ Styles, il va profiter de la présence de quelqu'un. Il va profiter non pas de la présence de Omos, son associé, son géant de 2m72, mais bien du Fiend. Parce que le Fiend, il est aux abords du ring. Il va déclencher sa musique, il va être caché derrière les barrières d'insécurité. Ça va suffire à déstabiliser le Randy Orton, qui va pas prendre de coups ou quoi que ce soit, mais qui va être juste un peu déboussolé, un peu perdu au milieu du ring, à chercher partout où est le Fiend, etc. Le AJ Styles, c'est un malin, hein, on lui fait pas aux vétérans, hein, donc il va en profiter pour coller un phénoménal forearm à Randy Orton. Il va remporter la rencontre et donc il affrontera Kisly et Riddle la semaine prochaine. Lui, Randy Orton, il va rester sur le ring sur la toute fin du show, pendant que le rire du Fiend sardonique et satanique se fait entendre, et c'est ainsi que va se conclure le show. Alors, mon papy, ce main event, cette qualification de AJ Styles et donc cette perturbation, j'ai envie de dire, de Randy Orton par le Fiend, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Ouais, c'est là on passe à la, entre guillemets, à la suite en fait de l'histoire. C'est-à-dire que AJ, en tant que capitaine de l'équipe victorieuse, se dirige tout droit vers un triple threat où pour moi il est le favori pour affronter Drew McIntyre à TLC. Et tandis que Orton, depuis le temps que ça tourne autour, ça y est, c'est officier. Je pense que c'est parti, c'est sur les rails de la rivalité avec le Fiend. Et il y avait eu beaucoup de pistes lancées par le Fiend, notamment avec l'histoire des maisons brûlées. À un moment, quand Orton était champion, il y avait le choix entre trois histoires, entre le Fiend, le Miz avec la mallette, et d'ailleurs qu'on n'a pas vu, et Drew McIntyre. Finalement, il avait choisi de fuir le Fiend, et il n'a pas pu le fuir trop longtemps, puisque le Fiend semble l'avoir rattrapé, et ça semble se poursuivre. Alors, il contre il en plus, mais bon, le Fiend, on en parlait tout à l'heure en parlant du Taker, je pense que c'est un mec qui est capable de sublimer les positionnements. Et puis voilà, j'espère que ça fera un vrai match de catch, et que ce ne sera pas trop un truc que trop... à part disparaître, faire des vers de terre sur le sol et se cacher dans les toilettes ou je sais pas quoi. J'espère que ça sera un vrai match de catch. Je pense que ça, sincèrement, ça ferait du bien que le Fiend ait un vrai match de catch. Et un spécialiste, même si Orton il a un style qu'on peut aimer, ne pas aimer, c'est vrai qu'il est plutôt lent, mais par contre en termes de catch pur et dur, c'est quand même un mec qui sait y faire, quoi. Donc j'espère que ça sera l'occasion pour le Fiend de donner un vrai match de catch. Et pour nous montrer ce qu'il est vraiment capable de faire, quoi. Donc voilà, je l'espère de tout mon cœur.
Alors du coup, on a eu quand même beaucoup d'absents, hein, pendant ce Monday Night Raw, puisque ni plus ni moins que le champion du monde, hein, le bel homme Drew McIntyre, a été absent. On n'a pas vu Retribution non plus. Il y avait quelques absents de marque, et malgré tout, les ratings se sont bien tenus malgré l'absence du champion du monde, puisque Monday Night Raw, cette semaine, va coller un 1 810 000 spectateurs, ce qui est plutôt pas mal, même si, comme d'habitude, la troisième heure aura été très très difficile, puisqu'ils auront perdu presque, je crois qu'ils sont passés à 1 650 000 dans la troisième heure. Donc ça, c'est toujours ce truc étrange, hein, de la troisième heure qui est vraiment dans le dur, hein, chaque semaine.
Ouais, et alors là, est-ce qu'il y avait un vrai programme annoncé pour la troisième heure, hein? Il y avait juste le main event, je crois. Il y avait Le reste, c'était pas vraiment annoncé. Ouais, bah c'est un peu compliqué. Ouais. Si t'as pas une grosse histoire pour maintenir le truc, je pense qu'ils perdent naturellement des téléspectateurs. Là, t'avais des bons matchs. Franchement, il n'y avait pas de quoi être déçu. Mais par contre, il n'y avait pas le gros fil rouge, le gros truc attendu, la grande histoire.
Ouais.
On a vu tout le jeu, quoi. Donc, bon, c'est. Moi, en tant que fan, j'ai aucun. Enfin, je décroche pas parce que bah, je vois du bon truc. Mais par contre, un mec qui est plus casual, bah, il se dit pas oh putain, il y a absolument ça que je veux voir quand c'est AJ Styles Orton, je pense.
Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, voilà, ainsi s'achève ce Monday Night Raw du 23 novembre 2020. Et bah, vous connaissez la procédure catch-up-esque, puisque le papy va nous donner son top, son flop et sa note.
Ouh, eh ben là tu me prends de court parce que du coup j'ai pas réfléchi pendant tout notre déroulé, j'ai pas commencé à préparer mes flop et du coup j'ai absolument rien. En top, qu'est-ce que je vais pouvoir donner en top? Il y a eu tellement de bons matchs que j'ai du mal à choisir en fait. Parce qu'il y a franchement eu des bons trucs. Allez, je vais donner en top parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment chagriné tout au long de l'année. Je vais le donner au match tag team et à la résurrection de la division tag team par les New Day. Vrai bon match de catch. Et voilà, ça m'a tellement fait mal au cœur de ne pas avoir de catch tag team cette année à la WWE parce que. C'était le cas aussi à SmackDown, c'était aussi le cas à NXT, je trouve. Enfin, moi, je n'ai pas vu de pocket par équipe cette année. Et donc, je suis content de voir un peu ça qui revient en fin d'année. C'est un petit plaisir de fin d'année. Mon flop, ça va être compliqué parce qu'est-ce qu'il y a eu de mauvais comme flop il y a. Les filles, je ne peux pas leur en vouloir. Catch masculin, c'était plutôt bon. On va le donner à Braun Strowman. Braun Strowman qui fait tout le temps des resets. Je suis un gros bourrin et je me fais sortir de l'histoire parce que je ne peux pas me gérer. C'est ça, moi, c'est mon flop. C'est Braun Strowman qui, bah, en fait, je trouve que cette élimination, c'est un peu le symbole de ce qu'il fait cette année. Et depuis même plusieurs années, c'est un mec qui est build ultra fort, mais on ne sait pas quoi en foutre. Voilà. Et tu vois, c'est un peu le syndrome Wyatt, mais Wyatt, encore, il arrive à occuper le temps avec des Firefly and Funhouse. Il a créé un univers, quoi. Mais Braun Strowman n'est même pas un univers. Il a rien pour lui. Il a juste son personnage, mais qui va pas chercher plus loin que je suis Braun Strowman et je casse des gueules, quoi. Et voilà. Donc, et ma note, du coup, bah, je vais donner plutôt une bonne note parce que, hormis l'absence de quelques têtes d'affiche et d'un gros fil rouge, on va dire, mais le reste était plutôt bien, des bons matchs, de quoi nous réconcilier avec du catch à Raw. Et donc, je vais donner un bon 3. Allez, un 3. J'enlève juste les points pour le fait qu'il n'y ait pas, que ça manque d'une grande histoire. On sent les prémices on sent qu'il y a les prémices de grands trucs. Les Wyatt Orton, les Drew versus son futur adversaire, peut-être Kisly Lashley. Mais voilà, c'est que les prémices. C'est pas encore la grande histoire qui est lancée. Donc, je ne peux pas mettre non plus une note excellente. Mais un bon 3, comme pour dire que c'était un bon moment.
Ok, écoute, moi mon top, bah, j'aurais bien été lancé comme toi à le donner au Tag Team Championship parce que vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment un super match. Mais effectivement, il y a eu d'autres bons matchs en fait au cours de ce Raw, donc ça c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Vas-y mon papy, hein, en Tag Team Partner, partner jusqu'au bout et moi aussi je vais donner mon top au match Tag Team parce que vraiment ça m'a ravi, quoi, j'ai trouvé ça terrible. J'ai eu juste une peur au moment du count out, je me suis dit oh non! Et puis bam, en fait derrière ils ont relancé et c'était la meilleure des choses à faire. Et se retrouver avec un tag team championship de 22 minutes à Raw, bah franchement ça fait plaisir. Comme toi, ça m'a tout autant fait plaisir. Mon flop, moi je vais le donner à MVP parce que vraiment je n'ai pas compris cette intervention. Vraiment il a défoncé sa chance à Bobby Lashley, quoi, en intervenant n'importe comment. Enfin là pour moi, là pour le coup, c'est pas, y a pas de réflexion de manager derrière ça. J'ai trouvé cette intervention débile. Moi j'ai trouvé que ça rimait à rien et vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Voilà ma première réaction quand j'ai vu MVP débarquer sur ring, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Il sait pas que il va coûter la DQ là. Bon n'importe quoi MVP là. Bon bref, quoi. C'était ça m'a vraiment pas branché, quoi. Et puis ma note, moi je vais être un petit peu plus sévère que toi, mais pas beaucoup plus, parce que bon, quand même, moi, l'absence de Drew, ça me fait toujours un petit peu chier. J'aime quand le bel homme est présent à Raw. Et puis Retribution, moi je trouve aussi assez hallucinant. Les mecs ont disparu là carrément, quoi. Donc c'est assez incroyable.
Voilà, ah oui.
On a baptisé ça fait depuis début août. On en est là avec Retribution, et là ça y est, les mecs sont en train de creuser leur tombe, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que là, ça y est, les mecs commencent à disparaître des shows, donc ça c'est pas bon, même pas une promo, même pas une vidéo, rien quoi, absolument rien. Donc vraiment le néant avec Retribution.
Ouais, mais c'est donc, parce qu'ils ont mis trop de... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que je pense qu'ils ont, en fait, ils ont totalement viré la low card sur sociaux, en fait. Ils ont vraiment mis en valeur.
Ouais, je crois aussi, ouais.
Middle, high card, et puis la low card totalement disparue. Hein.
Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, c'est évident, ouais, que la low card était en... n'était pas là lundi soir. Voilà, et puis maintenant, du coup, ça sera un 2,75 pour moi. Donc, écoute, ça nous fait un RAW quand même de bonne qualité, on va dire, quoi, de toute manière. Pour un RAW qui suit les Survivor Series, je trouve que c'est pas si mal que ça. De ce que j'ai lu un peu partout à droite à gauche, ça a l'air d'être un petit peu le sentiment général. Qu'est-ce que t'attends, toi, si on se lance juste deux minutes là sur le triple threat de la semaine prochaine, là, qui va être, à mon avis, de toute façon, le main event de Monday Night Raw. Qu'est-ce que t'en penses là, de cette triple threat Keith Lee, Riddle, AJ Styles?
Ah, pour moi, c'est à la fois un prono et un souhait. Je pense que c'est le moment de mettre AJ Styles dans les pattes de Drew McIntyre, parce que je suis pas sûr qu'il soit déjà affronté deux mois dans les affaires récentes de Drew méga tête d'affiche de Raw. Et ça permettrait à... Enfin, AJ Styles, avec son garde du corps, tu vois, je me dis, ça peut être une solution pour vraiment foutre le doute sur Drew McIntyre, tu vois. Et en fait, je me dis ça aussi parce que d'une part, j'ai envie de voir AJ Styles contre Drew McIntyre, parce que c'est comme... Deux superstars des plus importantes dans le roster de la WWE, tout roster confondu. Et aussi parce que je ne sais pas quoi en foutre aussi dans AJ Styles avec son garde du corps. Il est trop fort pour aller se taper des Riddle et des machins avec un mec à côté de lui. Il peut les battre tout seul. Et par contre, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, en fait. Donc ça me semble comme une évidence de mettre AJ Styles contre Drew McIntyre. Et surtout que, comme je disais dans la review, je vois plus Keith Lee et Riddle affronter d'autres personnes, notamment le Hurt Business, dans la évident, et peut-être Sheamus pour Riddle, vu que son fireface qui lui sort depuis quelques semaines, ça a l'air de passablement énerver notre Irlandais préféré, enfin un de nos Irlandais préférés. Voilà pour le chrono, je sais pas tout ce que tu sens.
Ouais, moi je suis à peu près comme toi. Bon, déjà pour des histoires d'alignement, hein, dans ce Triple Threat, il y a deux faces et il y a un heel. J'ai du mal à imaginer qu'on mette un babyface face à Drew qui est lui au top du top du top de la babyfaceitude. Donc j'ai envie de pronostiquer comme toi, et moi aussi je vois bien AJ Styles vainqueur. Et je pense qu'effectivement si on a une stipulation TLC, ça peut nous faire un très très gros match entre McIntyre et Styles. Donc, ça serait avec plaisir que je verrais Styles gagner lundi prochain, quoi. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être pas mal. Voilà, tout cas, si le peuple de Catch-Up veut en savoir plus, il faut continuer à suivre nos reviews, parce que ça continue. Vous pouvez aller voir la review de Survivor Series qui est en ligne. Sur YouTube, hein, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, sonnez la cloche, mais laissez des commentaires pour aider au référencement. Mettez-nous des pouces bleus. N'hésitez pas, foncez sur YouTube pour écouter cette review de Raw. Et vous aurez en fin de semaine, vous aurez la review de SmackDown qui arrivera. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Bien évidemment, sur le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. Et sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Bien évidemment, vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord. N'hésitez pas à venir vous inscrire sur le Discord. Vous pouvez retrouver tous vos chroniqueurs de la team Catch-Up, voilà, pour commenter tout au long de la semaine tout ce qui se passe à la WWE et dans le monde du catch en général. Mon papy, je te remercie de t'être joint à moi avec cette tag team partenaire des anciens.
Merci de m'avoir été pour ce bon rôle. Comme je l'ai déjà dit, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter d'un bon show. Quand même. C'est, ça nous fait chaud au cœur de passer ces bons moments. Et puis j'espère que vous passez aussi des bons moments à nous écouter. Et comme disait Tonton, n'hésitez pas à venir nous voir sur Discord. On vous expliquera pourquoi vous avez tort et pourquoi ce qu'on dit est la vérité.
Nous avons toujours raison, la catch-up.
Exactement.
Allez, c'est sur ces bons mots qu'on termine. Amis, on vous fait, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut peuple de catcheurs. Lana va gagner le Rumble, je le sens trop.
Oui, c'est pourquoi pas. Et puis derrière, c'est la route vers WrestleMania. Et puis Hall of Fame dans la foulée, je pense.